de fil en ville. Moi c'est Clara. Voyager c'est sympa, mais voyager tout en trouvant des solutions pour notre planète, c'est super sympa. Alors partons ensemble pour découvrir de nouvelles cultures, musiques et expériences culinaires, tout en se préoccupant de la planète. Allez, montez dans mon sac, je vous ai fait de la place.
De fil en ville, départ immédiat.
Bonjour à tous et bienvenue. Et avant toute chose, je vous souhaite une bonne année et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Ce mois-ci, je suis à Oulan-Baltor, en Mongolie. Je suis en train de préparer ma valise pour partir. Mais je ne pouvais pas ne pas vous raconter ce que j'ai découvert ici. Par où commencer ? J'ai découvert tellement de choses ! Eh bien, la logique me dit de débuter par l'histoire de la ville, alors allons-y ! La ville a été baptisée Oulan-Baltor, ce qui veut dire « héros rouge » en 1924, en hommage à la conquête communiste face aux Chinois pour ce territoire. C'est à ce même moment qu'elle est considérée comme la capitale de la Mongolie, indépendante. Alors entre guillemets parce qu'en réalité elle est toujours sous l'emprise soviétique, mais une fois que l'Union soviétique disparaît, elle est vraiment libre. La vie de nomade s'est aussi ancrée dans l'histoire et dans le présent du pays. Il y a deux choses essentielles dans la vie de Mongol nomade. La yourte, que vous connaissez sûrement, car elle n'est pas spécifique à la culture mongole. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une maison facilement transportable que l'on peut installer et désinstaller autant que l'on le souhaite. J'en ai pas vraiment beaucoup vu dans la ville, mais plutôt dans les steppes. Et il y a un autre élément fondamental à la vie de nomade, c'est le chaptel, c'est-à-dire un troupeau de bestiaux. Les bestiaux sont très importants, car ils permettent de subvenir aux besoins de toute la famille, que ce soit pour la nourriture, avec les moutons par exemple, ou comme moyen de locomotion, dans le cas des chevaux. Les Mongols sont très attachés à leurs bestiaux, plus particulièrement à leurs chevaux. Un proverbe dit « Un homme sans cheval, c'est comme un oiseau sans ailes ». C'est pourquoi on trouve des représentations de chevaux un peu partout. La spiritualité est également omniprésente, surtout le chamanisme. Le chamanisme s'organise autour du chaman, qui joue le rôle de guérisseur, mais il est aussi considéré comme une personne qui accompagne les âmes mortes dans l'au-delà. Les nomades ont été façonnés par ces idéaux. Par exemple, lorsqu'ils font un trou dans le sol pour mettre un pieu afin d'attacher les bestiaux, à la fin de leur voyage, vous pouvez être sûr qu'ils vont refermer ce trou, car il y a un principe du chamanisme qui consiste à rendre la terre dans l'état naturel. Le chamanisme est de plus en plus populaire et du coup, en me baladant dans la ville, j'ai rencontré plusieurs chamans vendant leurs soins. Plus ou moins fiables, si vous voulez mon avis. Justement, dans la ville, il y a beaucoup de musées. Je vous accorde qu'il y en a qui sont un peu moins entretenus que d'autres, mais c'est tout de même sympa. J'ai beaucoup aimé le musée national, car il m'a permis de mieux comprendre l'origine du pays avec les différentes salles qui correspondent à des périodes différentes. Bon, je crois que j'ai pas mal rangé. Donc, je vais m'accorder une petite pause pour vous parler de la cuisine mongole. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui me reste ? Bon, je vais faire un peu de thé avec du lait dedans. Oui, vous avez bien entendu. Du thé avec du lait salé. C'est quelque chose que j'ai découvert ici, mais il me semble que c'est d'origine chinoise. Je suis pas sûre. Au début, c'est assez surprenant, mais on finit par s'y habituer. Bon, j'avoue que je mets pas beaucoup de lait dedans, car je n'aime pas trop ça. Mais quand même, il y a quand même des régions où ils mettent du beurre aussi. Je ne suis pas allée jusque-là. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Les Mongols boivent du thé quasiment avant tout leur repas, car cela est censé favoriser la digestion. En ce qui concerne les plats, il y en a deux sortes. Ceux des mois blancs, parce que c'est une période où il fait chaud, où il y a du fromage, du lait, et où l'apport calorique va être moins important. Et ceux des mois rouges, qui englobent les mois de froid extrême. On parle de mois rouges, car durant cette période, les Mongols consomment beaucoup de viande rouge qui permettent d'avoir assez de calories pour supporter le froid. L'un des plats les plus connus de cette période, c'est les beuls. En fait, c'est des raviolis fourrés à la viande de mouton, aromatisés à l'ail ou à l'oignon. Ce plat ressemble quand même beaucoup au manti turc. Y aurait-il un plagiat ? Il y a un autre plat très similaire, mais c'est plus un chausson, et contrairement au beuze, il est frit, alors que le beuze, il est cuit à la vapeur. Et attention à la façon dont vous mangez lorsque vous êtes en compagnie de Mongols. Il ne faut pas poser sa tasse de thé sur la table avant de l'avoir goûtée, tout en s'assurant de tenir la tasse par le fond et non pas par le bord. Il faut également toujours couper vers soi et pas vers l'extérieur. Ce sont des petits détails, tout de même très importants pour les Mongols lors des repas. Je vous avoue que ce mois-ci n'a pas été très musical. Il est vrai que je n'ai pas vraiment prêté d'attention à la musique mongole. Mais pas d'inquiétude, j'ai fait de multiples rencontres qui m'ont parlé d'un groupe très apprécié ici, nommé Altan Urga. J'ai fait mes petites recherches et j'ai écouté quelques-uns de ses titres. Et je me suis dit que ça serait intéressant de les partager avec vous. Le groupe mélange des percussions occidentales et des instruments à cordes mongoles. J'ai trouvé ce mélange très surprenant et à la fois sympathique. Je vous laisse vous faire votre propre avis tout de suite sur ce groupe et plus particulièrement sur le titre Blue Mark.
De fil en ville.
Eh bien, j'espère que cette petite pause musicale vous aura permis de voyager tout autant que moi. Mais maintenant, il est temps de vous dévoiler l'autre visage de la ville. Ulaanbaatar est depuis 2011 considérée comme la deuxième ville la plus polluée du monde par l'OMS en raison de sa pollution atmosphérique qui, cette année-là, et comme les suivantes, a atteint un très très haut niveau. Mais alors, comment la ville en est-elle arrivée là? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la Mongolie est un pays assez pauvre et de ce fait, la majeure partie des habitants de la ville vivent dans des bidonvilles ou des yourtes. Mais lorsque l'hiver arrive, il faut que ses habitants se réchauffent. Et pour cela, ils utilisent des chauffages fonctionnant avec du charbon ou même dans les cas les plus extrêmes, par la combustion de plastique. Ce sont des méthodes très polluantes et dangereuses pour les hommes, mais ce sont aussi des méthodes peu coûteuses, d'où leur succès auprès de ces populations. En fait, lorsqu'un Mongol se réchauffe à l'aide de son chauffage au charbon, celui-ci rejette du dioxyde de soufre et des particules. Ce dioxyde et ces particules se retrouvent alors dans l'atmosphère, où les particules fines sont de plus en plus présentes, à tel point qu'il est parfois nécessaire d'allumer les phares d'une voiture en pleine journée. La ville est dans une spirale, car en raison d'autres actions peu favorables à notre planète, le monde fait face à des dérèglements climatiques, et notamment en Mongolie, où les étés sont de plus en plus chauds et conduisent à une immense sécheresse, tandis que les hivers sont de plus en plus froids. Par conséquent, les hivers plus en plus froids conduisent les Mongols à chauffer plus, sauf que leur méthode de réchauffement pollue encore plus, et ainsi de suite, jusqu'à quand, on ne sait pas. Cette ville m'a vraiment fait prendre conscience de l'urgence climatique que l'on ne peut plus ignorer, car les impacts sont de plus en plus importants pour la Terre et pour l'homme. En effet, si les adultes ressentent les contre-coups de la pollution, les enfants en sont encore plus victimes en raison de leur fragilité. Désormais, à Oulan-Bator, la pneumonie est la deuxième cause de décès infantile. Les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à la campagne pour qu'ils respirent de l'air moins pollué et qu'ils ne fassent pas maladie sur maladie. Cette situation est vraiment dramatique, d'autant plus que les solutions proposées sont alarmantes et sidérantes. Et oui, étant donné qu'à Oulan-Bator, respirer c'est dangereux, les Russes ont une invention de génie, des bombes d'oxygène. Non, vous n'avez pas mal compris, dans les supermarchés, il y a des bombes aérosols nommées « l'air c'est la vie ». Qui permet aux habitants de transformer leur jus de fruits en un cocktail d'oxygène. C'est une solution utilisée par beaucoup de citadins, dont les femmes enceintes. Je trouve que cette solution représente bien la situation catastrophique de ce pays. C'est pourquoi les associations manifestent leur mécontentement pour que l'État agisse. Ce qu'il a fait, bien évidemment, mais très maladroitement. Car certes, exonérer les entreprises productrices de purificateurs d'air pour qu'ils soient moins chers et plus abordables est une solution à peu près cohérente, mais pour moi, c'est une solution qui doit être temporaire, car le but n'est pas de s'embêter à purifier l'air avec des machines, mais d'améliorer tout simplement la qualité de l'air de façon concrète. Alors oui, des efforts ont été faits dans ce sens avec l'exploitation d'énergie dite verte pour remplacer l'utilisation du charbon, qui représente tout de même 80% de l'énergie du pays. Mais est-ce que cela a réellement fonctionné? Eh bien, nous le verrons cette année, car si tous les calculs sont bons, les énergies vertes devraient constituer 20% de l'énergie nécessaire au pays en 2020. Alors, il n'y a pas que des solutions maladroites, hein. L'État a débloqué des fonds pour munir les Mongols de chauffage qui rejettent moins de particules, mais c'est des solutions qui sont assez minimes face à l'ampleur que prend la pollution dans cette ville et dans ce pays. Oh mince, déjà à cette heure-là. Bon, je dois vous laisser car je m'apprête à partir pour la Chine. Je sais pas si je vais y rentrer, mais en tout cas, j'y vais. En tout cas, si je dois faire un bilan de ce mois en Mongolie, je dresserai un bilan d'alerte et de sidération face à la situation dans laquelle les Mongols évoluent. C'est pour l'instant la situation qui me préoccupe le plus, parce que la ville, comme le pays, fait face à une situation tragique face à laquelle nous sommes tous démunis. Toutefois, il me faut une note positive pour finir cette émission, qui sera celle de la cuisine mongole ainsi que la découverte du chamanisme qui m'ont fait voyager. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis au mois prochain.
De fil en ville.
Moi c'est Clara. Voyager c'est sympa, mais voyager tout en trouvant des solutions pour notre planète, c'est super sympa. Alors partons ensemble pour découvrir de nouvelles cultures, musiques et expériences culinaires, tout en se préoccupant de la planète. Allez, montez dans mon sac, je vous ai fait de la place.
De fil en ville vous remercie et espère que ce voyage vous a plu. À très bientôt.